I'm gonna touch the night tonight, or do you want it like you're having fun? Are you ready for some action? Are you ready for the void? Do you want to lose your mind tonight? Do you want to be a Danny boy?
Quoi là sur les ondes de Canal Sud
Donc on a écouté Einstein de Neubauten et la chanson c'était Jugung Futter Mein Ego, ce qui veut dire nourrit mon ego.
Donc, c'est un groupe allemand.
C'est un groupe allemand, ouais, qui existe encore, qui a commencé dans la mouvance punk et qui s'en est éloigné pour faire de l'indus. Et là en fait j'ai choisi ce morceau parce que le titre de l'exposition c'est Autodéconstruction. Et donc le nom du groupe en allemand ça veut dire nouvelle bâtisse en déconstruction. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Et ensuite, vu que je parle de l'ego, là, le titre de la chanson, c'est « Futter mein Ego », ça veut dire « nourrir mon ego », mais dans le sens « nourrir un animal », quoi.
Ah oui, gave-le,
ouais,
un peu gavé, quoi.
Et après, bon, ça parle, les paroles, ça parle plus ou moins de drogue, même si moi, ça me branche pas trop, mais bon. Voilà.
Donc, vous avez compris, l'antenne de Canal Sud s'ouvre tout de suite sur ce premier vendredi du mois de février 2017 pour l'exposition en cours, dont le titre est « Autodéconstruction ». Et XP, c'est toi qui viens de prendre la parole, qui a choisi le morceau, et c'est toi qui t'es installé dans les locaux de la radio Canal Sud.
Oui, mais je... Ouais, je peux parler de la genèse du
parce
thème
que
de
l'expo. Oui, parce que c'est une expo, mais juste avant, pour ceux qui étaient à l'heure, parce qu'ils étaient invités à 19h, ouais. Il y a eu une performance, quoi.
Voilà.
Alors, on peut raconter.
On peut raconter. Donc, les gens sont arrivés et il n'y avait aucun tableau au mur, seulement deux installations. Donc, une baignoire avec un homme immergé dans des capsules.
De bière. Regardez, il n'y a que des bières.
Oh, il y avait quelques bouchons de vin quand même, attendez.
Ah bon, d'accord.
Je suis pour la diversité. donc, ensuite, il y avait une autre installation qui était une table de camping et je crois que le titre c'est...
Table d'extérieur, disons,
attendez,
camping.
Attendez, vous pouvez me prêter une fiche.
Oui.
Je me souviens plus des heures. Parce que
elle est longue.
Elle date de maintenant, donc
parce
c'est 18h. Et donc, ça s'appelle Liturgie de camping ou Transsubstantation pour pique-nique aviné. Donc, c'est une espèce de reproduction de la scène, voilà, où on sacrifie l'agneau de Dieu et on boit le sang du Christ. Voilà.
Donc là, il n'y a pas de sang, mais il y a du vin renversé. Il y a des morceaux de doigts, des os calcifiés, des choses comme ça. Quoi.
Oui, le corps du Christ.
Mais le vrai, quoi. Ouais. On arrête de faire l'abstraction et on fait du concret.
Voilà, en fait, l'idée, c'était de rendre trivial le cérémoniel de l'Eucharistie, c'est-à-dire le décontextualiser pour revenir à ce que c'est. Et pour moi, en fait, la scène, c'est juste
du cannibalisme,
mais surtout un repas aviné entre copains, quoi. Voilà.
Oui.
Parce qu'en fait, l'idée, c'est... Enfin, l'idée...
Ça fait partie, donc, de cette déconstruction, en fait.
Voilà.
Alors, moi, ce que je vais lire...
Vas-y. C'était juste... Oui, donc, la performance, parce que j'ai pas décrit la performance. Donc, il n'y avait aucun tableau, et donc, j'ai fait un tour de magie. Tous les tableaux étaient empilés les uns sur les autres, avec un bidon d'essence et un paquet d'allumettes.
Un gros jerrycan à l'ancienne.
Voilà. Et donc, l'idée, c'était bien sûr de renvoyer vers l'autodafé, le bûcher des vanités, réfléchir à la valeur.
Le public a quand même reculé, hein, je fais remarquer. Hein.
Oui, mais ça, c'est classique. Quand il y a quelque chose qui se passe, personne ne veut être impliqué.
Quand même. Il y en a qui ont reculé parce qu'ils ne savaient pas trop ce que tu allais faire. Hein.
Ouais, c'était pour avoir une petite tension. Là, j'ai voulu faire une montée en tension parce que les tableaux sont peut-être un peu durs pour certaines personnes. Donc, je vais faire une petite montée en tension. Donc, j'ai pris une allumette, je l'ai soufflée. La lumière s'est éteinte, on y a cru. C'était magique, c'était de la magie. J'ai mis un peu de musique répétitive, un peu sombre, on va dire, tranquille. Bon, et j'ai installé mes tableaux à la lampe torche, voilà.
Avec une lampe frontale.
Voilà, c'est ça. Pour rendre un peu un côté un peu plus hypnotique.
Et en plus que c'était assez magique, c'est que les tableaux, comme tu les prenais, on aurait dit qu'ils étaient aimantés au mur quand tu les posais, plaf. C'est leur place.
C'était chorégraphié, c'est du travail de professionnel, madame.
Non, mais le résultat donne visuellement, c'est intéressant.
Oui,
hein,
mais ouais, ça, bon, je sais pas, moi j'étais dans le truc, donc j'ai pas vu ce que ça donnait, ça pouvait donner, parce que je voyais juste la lumière qui clignotait, j'affichais les trucs, bon. Voilà, en fait, je parle dans ce texte d'introduction pour l'exposition de la mort de Dieu, de tout un tas de choses.
Moi je dirais, tu ne parles pas que de la mort de Dieu. Tu dis Dieu est mort.
Oui.
Non, parce que la mort de Dieu, c'est quelqu'un de vivant qui meurt. Tandis que là, circuler, il n'y a rien à voir, Dieu est mort.
Oui.
Un peu, non ?
Ouais, et donc après, Je reprenais la, une citation de Nietzsche, en fait, c'est la tarte à la crème philosophique, là, Dieu est mort, Nietzsche est mort Dieu, bon bref, ce genre de choses, mais en fait l'idée, c'est ce que je voulais souligner, c'est surtout la fin de la citation, donc pour être digne de ce crime, il faut devenir son propre Dieu. En fait, la mort de Dieu pour Nietzsche, elle est symbolique, c'est la fin de la religion, c'est la fin de la morale absolue. Et donc devenir son propre Dieu, je prends au mot, je joue un peu avec, mais en fait ça vient de...
Il faut peut-être devenir responsable de soi-même, un petit peu quoi.
Voilà, c'est ça, et choisir ses valeurs morales, mais ça devient compliqué, enfin bon. Et en fait j'ai fait ça parce que l'idée elle est venue de retour que j'avais d'exposition, parce que je travaille beaucoup sur l'autoportrait. Au départ c'était par défaut de modèle, et après ça m'a pris, bon. Et donc j'ai eu des retours comme quoi j'étais mégalomane, narcissique.
Et t'avais fait une exposition, alors tu m'as dit en avril 2014, ouais. Si tu te rappelles du titre.
En fuyant les arrière-mondes sur la banquette arrière, je crois que
voilà,
c'était ça.
Voilà, je me rappelais très bien de l'image où on voyait la banquette d'une voiture en fait.
Non, c'était...
Mais si tu parlais de ça, tu parlais d'un souvenir d'enfance.
Ah oui, oui, ah, oui, mais ça c'était...
Derrière la banquette, et que tu te rappelais de ça, quoi.
Ouais, mais
tous les enfants, on s'est toujours trouvés derrière et on voyait défiler le monde, donc on a pu rêver, quoi.
Oui, en fait, là, c'était une évocation des idéaux, des arrière-mondes. Et en fait, je faisais une petite blague en disant que je regardais l'arrière de la voiture et je voyais les arbres défiler. En fait, si on voulait vraiment voir ces arrière-mondes, il suffit que la voiture rentre dans un arbre et on y est directement. Mais bon, c'est... Voilà. C'était un peu violent.
C'était trash.
Ouais, bon, là, ça n'a pas beaucoup changé, mais...
Ce qui n'a pas changé, on va en parler, la peinture, parce que, bon, moi qui parle au micro, je fais la maline, là, mais en fait, parce que je suis arrivée un petit peu avant l'heure, comme ça, j'ai pu voir les tableaux installés sur les murs, oui. Puisque là, sinon, le chrono était un peu juste entre la performance et l'ouverture du micro, oui. On ne pouvait pas trop... Oui. Donc voilà, donc en effet, bon, dire que c'est trash, c'est ta façon de peindre d'art brut, enfin, des directs, quoi, on pourrait dire. Par contre, à chaque fois, je pense qu'il y a une sacrée réflexion. Alors là, il y a un super texte. Moi, je trouve bien le texte. Et surtout, j'adore la fin. Donc, je vais la lire parce que je connais le bonhomme et j'aime son bouquin.
D'accord, toi aussi.
Voilà. Donc, en effet, tu commentes avec Nietzsche qui nous dit « Dieu est mort, il reste mort et c'est nous qui l'avons tué ». Mais tu termines par « Dieu et l'humanité ne se préoccupent de rien que d'eux-mêmes ». Laissez-moi donc à mon tour m'intéresser à moi-même, moi qui, comme Dieu, ne suis rien pour les autres. Moi qui suis mon tout, moi qui suis l'unique. Et c'est Max Stirner dans L'unique et sa propriété. Un très très bon livre que tout le monde devrait lire, on devrait le conseiller dans
absolument,
les écoles.
Absolument, oui, voilà.
Ah, par contre, ton texte, il y a des gens... Alors au début, il faut s'accrocher un petit peu parce que ça commence par un mot qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne l'utilise pas. C'est un texte écrit, ce n'est pas un texte oral. Hein, ouais. Donc voilà. Alors donc c'est l'apophthème. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai cherché le sens quand même. Oui. Hein. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que toi, tu te prends comme Maxime, on va dire, donc Dieu est mort. Mais on nous dit, connais-toi toi-même, rien de trop, ne te porte jamais caution. Enfin, on nous donne des exemples de Maxime, enfin, de sentence morale, un petit peu, c'est ça, non?
Ah oui, mais pour moi, c'est une sentence
morale. C'est comme une vérité qu'on ne pourrait pas dépasser, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est le connais-toi toi-même qui donne la définition. Moi, enfin, je sais plus, il y a une espèce de dizaine de proverbes grecs.
Voilà, ils sont là. Ouais. Reconnais l'occasion favorable. Tiens, je la connais pas celle-là. La plupart des hommes sont mauvais. Ah, la modération est le plus grand bien. Prudence en toute chose. Oh non, il y en a qui...
Oui, voilà. Donc, bon, c'est plus marrant. Dieu est mort, même si
Dieu est mort. Oui,
c'est pas Dieu n'existe pas. C'est Dieu est mort. Bon. Après,
oui,
moi...
c'est ça que je dis. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Si on dit qu'il est mort, c'est qu'il a été vivant.
Le concept est toujours là, quoi. Enfin, il est indépassable, donc on est toujours renvoyé à ça. Même quand on dit qu'il est mort, il existe quelque part dans sa mort. Enfin, il a existé. Bon, bref.
La société est un peu engluée là-dedans, hein. Surtout en ce moment. Là.
Ouais, donc,
ça revient un peu.
Là,
quoi.
C'était aussi un peu tapé dans la fourmilière en jouant avec des images du Christ, en jouant avec des images de l'art sacré, en fait. Ça, en fait, moi, ce que je comprenais, parce que je veux revenir au truc de l'intention de l'expo, des retours que j'ai eu, que j'étais narcissique, mégalomane en fait, et je comprenais pas, parce que on est quand même maintenant dans une espèce de mouvance égocentrique où tout le monde fait des selfies, où tout le monde se présente sous son meilleur jour.
Société individualiste, on dit.
Ouais, voilà.
Ouais.
Donc,
t'en faire le reproche, c'est étonnant.
Moi, je me peins, quand on m'a fait le reproche, je me peignais avec un tas d'ordures qui me tombaient sur la tête. Donc, j'avais pas l'impression d'être narcissique, même s'il y a un côté narcissique, je me représente et je me montre.
Un peu éventré, non?
Voilà. Donc, je comprenais pas très bien. En fait, j'ai réfléchi, en fait, c'est le mode de représentation. C'est-à-dire que j'utilise la peinture. Et dirais que ça donne une idée sacralisée de ma personne, parce que je m'inscris dans une tradition picturale et historique, et on pense que je me sacralise. Et donc j'ai réfléchi à ça, comme j'aime beaucoup la peinture sacrée, je me suis inspiré de scénographies de peinture sacrée.
Tu t'es pas inspiré un peu de Frida Kahlo?
Aussi oui, parce que il y a ce genre de choses où elle est rentrée,
elle est tout le temps, elle est dans tous ses tableaux,
elle est présente tous dans son tableau. Oui.
Ah,
oui.
Ouais.
Après là je me suis inspiré aussi pour certaines choses avec beaucoup de noir dans les fonds et tout. C'était plutôt le Caravage qui était un sacré fouteur de merde pour son époque, quoi, qui fuyait tous les six mois la ville où il était, quoi.
Là ça c'est les trois tableaux qu'il y a d'un côté où en effet alors tu dis l'art sacré, la religion, ouais. C'est religieux en fait, mais où en effet soit c'est la chapelle Sixtine, soit je sais pas ce que c'est,
c'est tout.
Le noir, alors on sait pas si le noir a dévoile les détails des petits angelots, ou si c'est l'inverse, tu as peint par-dessus le noir.
Ah ben ça c'est le secret, j'ai pas...
Oh,
excusez-moi,
voilà.
je vais pas vous dire ce qu'il y a sous le noir.
Ah voilà, bon, alors, donc nous en tant que, on voit le tableau et on reste dans cette question, est-ce qu'il a caché alors mais méchamment en noir la belle peinture, ou est-ce que il a fait ressortir? C'est selon l'humeur qu'on a, en fait.
Oui,
l'humeur qu'on a, on voit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein.
C'est ça. En fait, après, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a, par exemple, c'est des architectures intérieures de cathédrales ou de basiliques.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et donc, on a des espèces de taches d'eau, de parties de l'image. On voit donc l'intérieur de la basilique, mais par partie. Et ensuite, il y a un fond noir et est souligné avec des traits blancs sur le noir l'architecture du lieu.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on reconnaît, en fait, ouais, que
voilà,
c'est un
voilà.
Édifice religieux. Oui.
Ouais, et donc. Bon, rapidement, ce qui est l'idée qu'il y a derrière, c'est comment dire, représenter une géométrie, une axiomatique qui se bâtit sur le néant pour donner un sens au monde. Et ensuite, avec l'accident, on en arrive à des religions. Et en fait, c'est que des. J'ai pris l'exemple d'intérieur très baroque, rococo même.
Très surchargé.
Ouais, pour souligner, le côté grotesque et idolâtre de ces monuments.
Et un peu déconstructiviste, en fait, parce que quand plus on en rajoute, plus on déconstruit. Un peu,
oh, bah, oui.
Moi, je trouve pourquoi pas, non?
Non. C'est clair qu'en fait, par rapport au dogme que c'est censé représenter, je pense que ça va complètement dans le contraire, quoi. C'est la surenchère, quoi. Enfin, c'est...
Tout à fait.
Ouais, c'est... Bon, je...
Et donc dans cette expo, c'est ça, qu'à partir de cette phrase là, on va avoir la religion. Toi, ça fait des années, ça fait quand même pas mal d'années que tu peins.
Oui. Maintenant, ça fait presque 10 ans.
Voilà. Ouais. Donc il y a des personnages, et les personnages, ne cherchez pas, la tête te ressemble. Donc
c'est pareil que la dernière fois, c'est des moi idéalisés, plus ou moins. J'utilise une image de moi pour me mettre en scène et en fait me mettre en danger, parce que pas me mettre en danger au sens physique du terme, mais mettre en danger moralement. Je trouve que c'est bien beau de dire Dieu est mort, je crois en rien, ou je sais pas, c'est pas ce que je dis textuellement, même c'est pas ce que je pense, mais après de se représenter, de s'inclure dans cette philosophie, dans ces conclusions là, et de montrer qu'on est jusque boutiste et que en gros quand on pense qu'il n'y a pas de morale absolue, se représenter nu, en érection ou des choses comme ça, c'est s'inclure et essayer d'aller au-delà de la morale, mais enfin, comment dire, de faire une action en gros, quoi, comme un performeur le ferait, mais là à travers des tableaux.
Donc en fait, la performance s'arrête jamais, même les tableaux sont performance, quoi.
Ouais, on en parlait avec un ami performeur, et oui, les tableaux sont utilisés un peu comme de la performance, c'est-à-dire que le performeur, c'est quelqu'un qui va travailler sur son corps, sur soi, et moi je travaille aussi dans mes tableaux, sur mon corps, sur moi, sur mon état mental aussi.
Voilà. Et en fait, c'était pour ça, en fait, entre guillemets, je dirais pas une pudeur, mais cette façon de dire, je vous montre pas tout de suite les tableaux, je vais les accrocher dans le noir, et quand j'allume... Moi, je m'en vais et je vous laisse vous confronter avec ça un petit peu.
Ouais, il y avait la pudeur. Effectivement, j'avais pas envie
de... Que les gens arrivent, ouais, ça soit tout étalé déjà.
Ouais, voilà. Et ensuite, vu que je reviens au truc de Nietzsche, l'identification à Dieu. En gros, moi, je trouve que ce qui caractérise le mieux Dieu, c'est l'absence. Donc là, de pas avoir de tableau, de pas être présent. A posteriori, après la performance, c'était jouer sur l'absence, en fait.
Oh, puis ça fait cogiter quand même.
Ouais, quoi?
Ça fait cogiter. Les gens, ils sont là quand même. Ils disent bon, d'accord, ok, bon, il y a des cacahuètes, c'est sympa, un vernissage, d'accord, mais les murs sont vides.
Ouais, ben c'était ça un peu. D'ailleurs, on m'avait conseillé d'aller jusqu'au bout du concept et de rien installer. Laisser les clous et les titres, c'est tout. Mais bon. C'était dommage vu le travail que ça m'avait demandé de.
Non et puis en plus dans le sens où c'est dommage c'est parce que tu dis plusieurs choses quoi. Je veux dire, la performance dit une chose et puis après il y a quand même les tableaux et, oui. Et même chaque tableau se lit individuellement.
Oui, se lisent individuellement. Oui, oui.
On peut les détacher de l'ensemble.
Il y a une thématique, mais voilà. C'est très particulier.
Par contre, toi, contrairement, il y a des gens qui mettent sans titre. Toi, il y a des titres, hein. Des titres partout. Tu mets des titres.
Ah oui, mais c'est pour donner quelques indices pour comprendre ce que j'ai voulu faire, même si d'habitude ça rend le truc encore plus flou. Mais...
Alors là, par exemple, tu nous mets le Christ en nihiliste là, c'est-à-dire que c'est lui-même qui se plante le clou dans la main, tant qu'à faire. Hein.
Ah oui, non, en fait. Ouais, donc le
titre, c'est ça c'est, out, ça veut dire quoi out?
C'est out Christus, out nil, ça veut dire ou le Christ ou rien. En fait, c'est une parodie de la réplique de la devise de César Borgia, donc le fils du pape. Donc, il disait, d'après son prénom, Haut Caesar, Haut Nil, donc, ou César ou rien, ou Jules César ou rien, donc, parce qu'il voulait conquérir, réunir tous les États d'Italie, etc. Donc, il était complètement mégalomane. En fait, c'est une réflexion sur la mégalomanie de l'artiste, du Christ lui-même, enfin, Jésus le Nazoréen, si on croit pas, bah, bref. En fait, c'est vraiment une réflexion sur ça. C'est-à-dire, moi, je pense que enfin, si on lit des évangiles apocryphes comme l'évangile de selon Judas, enfin, il donne sa version des faits. Il dit, ben en fait, c'est Jésus qui m'a dit de le trahir, quoi. En même temps, le mec,
ça fait partie de la mise en scène.
Ouais, voilà, il est omnipotent, il sait tout, soi-disant, il fait partie de la Trinité, et puis il se fait trahir comme un bleu pour 32 deniers. Et après, ses potes qui l'ont vu accomplir des miracles, il l'oublie, quoi. Ben, non, je pense, et après, il gueule sur la croix, Eloi, Eloi, lema sabachthani, père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que le père, c'est censé être lui-même, c'est la quintessence de la Trinité. Donc bon, ça pose des questions, quand même.
Bah, ça pose des questions logiques, mais je pense que la religion ou ses croyances, ça ne sont pas logiques.
De toute façon, une citation de Tertullien, c'est « credo qui absurdum ». Enfin, c'est pas une citation propre, c'est « je crois parce que c'est absurde ».
Oui.
Ou dans Saint-Paul, en gros, il est allé à Athènes, il s'est fait humilier sur l'acropole par les philosophes de passage, et du coup, lui, il dit « oh non, mais en fait, il y a besoin de rien justifier, c'est bon là, allez, c'est fini, il n'y a pas besoin de justifier ». Donc, bon,
oui, on peut dire que nos philosophes actuels médiatiques, pareil, hein, ils se justifient pas et ils parlent beaucoup. Hein,
ah non, oui, mais de toute façon,
je veux dire, on change de croyance, mais on a toujours des prêtres qui officient sur nos médias et qui utilisent les mêmes ressorts, on va dire,
non, oui, mais
de croyance, d'avoir la foi, et de pas se justifier, etc.
Quoi. Oui, et donc c'est pour ça aussi que je le prends sous le jour de la déconstruction, c'est-à-dire chercher la contradiction propre à toute chose, le paradoxe qui est dans tout texte, tout le hors-texte, c'est le truc de Derrida, quoi, tout le hors-texte qui fait, et toute la situation qui fait que ça change un sens. Par exemple, j'utilise des mots, ça va pas avoir le même sens pour tout le monde. Et mis ensemble, on va peut-être pas comprendre ce que je veux exprimer au fond. Donc, je cite Descartes aussi, c'est la méthode des méthodiques. En gros, on met tout en doute. Est-ce que la réalité existe? Est-ce que je suis pas en train de rêver, etc.
Oui, ou Montaigne qui dit je suis pas philosophe ou des choses comme ça.
Quoi. Ça c'était. En fait, j'ai choisi de mettre une citation de Montaigne aussi parce que les essais, il utilise la formule. Je n'ai d'autre intention que me peindre moi-même approximativement. Je connais pas. Donc vu qu'il se peint, il se peint pour montrer comment il vit lui, ses pensées, pour que les autres puissent voir si ils ont un intérêt.
Bah, de toute façon, c'est quand même honnête, parce que quelque part, quand on peint, quand on écrit ou quand on parle, c'est soi-même qu'on met en scène quand même.
Ah oui,
donc,
non, mais...
toi, quelque part, au lieu de faire l'introverti, de pas le dire, tu dis, ben oui, c'est ça, c'est moi.
Ah oui,
c'est,
clairement.
C'est une certaine façon d'aller directement au but. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand tu dis, par rapport à l'artiste, c'est que il faut quand même un sacré culot pour se peindre, pour ensuite exposer, pour se montrer, pour faire ces choses-là. Et c'est là que tu parles de cet ego et pourquoi pas se prendre pour Dieu puisqu'on crée.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est ça. Tu vas jusque-là.
Oui.
Oui, oui.
Oh non, mais en fait, c'est facile de se prendre pour Dieu quand on est dans un atelier tout seul, qu'on peint un truc, on se marre, on a fini, on est là, qu'est-ce que ça va donner quand je vais le montrer? Donc bon, on imagine les réactions, on se crée un petit monde, quoi, mais bon, c'est toujours facile, mais bon.
C'est sûr que l'exposition fait sortir de l'atelier, fait sortir du cogitum un petit peu, hein, parce que là, non, tout d'un coup, des gens qui sont pas forcément dans ta démarche de réflexion, des personnes humaines, concrètes, devant des tableaux concrets, et il va se passer quelque chose.
Oui.
Mais ça, c'est intéressant parce que ça aussi, tu le recherches quand même.
Ah oui, effectivement, parce que quand on est dans l'atelier, même si mes réflexions, elles sont à la limite de l'absurde et que ça va dans tous les sens et que c'est peut-être pas très cohérent. En fait, quand je suis, j'ai quand même une démarche un peu rationnelle, je réfléchis, je fais des associations d'idées, mais quand je me retrouve à exposer mes tableaux, je me retrouve devant des gens et donc il y a le côté beaucoup plus irrationnel qui ressort, quoi. Mmh. Donc là, ça fait ressortir des choses que forcément on n'avait pas vues auparavant et ça fait réfléchir sur la réception de ce qui a été fait. Et si on a bien visé, c'est-à-dire si on comprend un peu ce qu'on voulait dire, qu'en fait, ce qu'on voulait exprimer, même si c'est pas le but d'être compris
intégralement. Oui, parce que t'es pas porteur d'un message, quoi. Tu expliques à la limite quelle est ta motivation, pourquoi dans quelles conditions tu as fait ça et pourquoi tu le fais, mais t'es pas porteur d'un message, à part que déconstruire, si quand même t'aimerais bien.
Mon message est assez simple. Moi, c'est
un coup de pied dans la fourmilière, comme tu disais.
Ouais, voilà, c'est arrêtez de vous prendre la tête. C'est tout.
Oui, mais non, mais tout en se prenant la tête quand même. C'est-à-dire
ne pas le faire sur des trucs qui servent à rien, quoi.
Voilà. Oui, mais ne pas le faire inconsciemment, le faire consciemment, se déconstruire consciemment, quoi.
Oui. Il y avait la précédente expo, j'avais exposé un tableau qui s'appelait Autorénaissance avortée,
oui,
qui parlait un peu de la même chose. Mm-hmm. Mais bon, mais...
Tu t'as couché toi-même.
Ouais, c'est ça, j'ai couché de moi-même.
Je me souviens. Oui. tu vois comme quoi ça, hein, les expos. Oui.
Et du coup, l'idée, là, j'étais dans une reconstruction. En gros, je pensais que je pourrais me reconstruire en faisant ce dont j'avais envie. Là, j'ai même plus cette ambition-là, je m'en fous. Je déconstruis, je regarde un peu les briques.
Mais quand même.
Je me refuge sur quelques ruines de temps en temps, mais c'est bien.
Mais quand même, cette emprise religieuse, christique, tu trouves qu'elle est prégnante dans notre société et qu'il faut vraiment s'en débarrasser?
Pour s'en débarrasser, c'est impossible. Mais je pense que c'est dramatique, je pense. Mmh. On n'irait jamais bosser comme ça si on n'irait pas bosser 40 heures par semaine pendant 40 ans.
S'il n'y avait pas derrière
le paradis qui n'est pas du tout dans le Nouveau Testament. Donc, les gars, réveillez-vous, lisez le Nouveau Testament. Vous allez juste attendre le retour du Christ. Visitez les hôpitaux psychiatriques. Il y en a plein qui sont revenus. Mais, donc, oui.
Mais il y a des religions. La religion juive, elle attend le Christ, hein.
Ah oui,
elle l'a pas vu venir. Il y en a d'autres. C'est le christianisme qui a vu le Christ. Les autres l'ont pas vu venir encore.
En fait, ils attendent tous un Messie de nous.
Et c'est pour ça que tu nous as installé, mais à hors de portée de main quand même, parce qu'il est assez haut, tu nous as installé un livre qui est le Nouveau Testament en allemand, en français, en anglais.
Ouais, et en plus je crois que c'est une version d'une obscure branche évangéliste qu'on m'avait offert.
Ah oui, qui vend sur les marchés là, un petit peu là.
Mais on me l'avait offert là. C'était des gens qui étaient très croyants. Et ouais, en fait ce livre là.
C'est les électeurs de Trump, hein, les évangélistes, ce que j'ai entendu. Hein.
Ouais, vous me parlez de Donald, ça me fait rire. Ouais, donc
ça fait rire, mais ça rend triste aussi.
Vous savez, on attend l'apocalypse, de toute façon, c'est dans la thématique de la soirée. Donc oui, ce livre, il est suspendu en fait à un hameçon
au-dessus d'un tableau qui est de Traviole.
Oui, qui est de Traviole, et le tableau, c'est moi qui tire la langue. Et donc
lui tire la langue au Nouveau Testament.
Ben c'est lui qui m'a attrapé parce qu'il y a l'hameçon dans ma bouche. Donc ça, et en fait le titre c'est, attendez, il faut le retrouver. Où est-ce qu'il est celui-là?
Il est dans le coin indicat. Non, c'est pas ça la
décision. Alors, attendez,
pas la décision. Mais c'est ça, c'est 14, non?
14. Non, c'est pas celui-là. C'est.
Alors, on va trouver parce qu'on a la liste.
Qu'allons-nous pécher? C'est la poule ou l'œuf de nos conceptions morales. Voilà. Mm-hmm. Bon, je laisse les.
Et alors, on s'aperçoit que oui, là, toutes les œuvres là, c'est un travail 2016-2017, une construction quoi pour cette expo
Pour une autre. Depuis que je le sais, je l'avais. Il y a des choses qui ont déjà été exposées. Je crois qu'il y a six tableaux qui avaient déjà été exposés au Champagne en septembre. Et là, il y a 18 œuvres, donc il y en a 12. La plus ancienne date d'avril 2016, je pense. Donc.
Et après, il y a une série de trois autoportraits. Ouais. Avec des morceaux de corps radiographiés. Ouais. Et puis il est un peu en position christique aussi, non? Un peu.
En fait, il y a.
Et c'est sur toi, bien entendu. Hein. Et alors, moi, j'aime bien parce que là, t'es pas dans le noir. Enfin, il y a un autre travail de peinture.
Je suis dans des espèces de taches de café, ouais.
Non, mais il y a un fond, c'est posé différemment. Quoi. Ouais. C'est un autre travail, là.
Mais là, c'est pas vraiment religieux cette fois-ci, même s'il y a une position.
T'as la position un peu des bras ouverts.
L'idée, c'était qu'il ait un peu une position de nourrisson, tu vois, avec les gens comme ça.
Oui,
mais il y a bien une position religieuse parce qu'il fait un signe avec les deux doigts en haut d'évêque ou de pape. Donc il s'est.
On est bien imprimé parce que je l'ai vu, je savais pas pourquoi je pensais à ça. Trois. Pardon. On nous dit que oui, il n'y a pas de problème.
On a le temps.
Il nous reste 8 minutes. 8 minutes encore. C'est bon, c'est beaucoup. Et donc, c'est marrant parce que j'ai interprété que c'était religieux, mais je n'avais pas. Comme quoi, dans notre inconscient, on est bien embourbé là-dedans. Alors là, c'est toi.
C'est un jeu sur la représentation. Et en fait, il y a des titres plus ou moins évoquant l'allégorie de la caverne de Platon. Donc, rétro-projection d'ambre batifolant sur la paroi d'une caverne délabrée, ou alors en détourant les ramures approximatives d'une créature donnant au réel. Bon, ça, c'est corps au réel. Et en fait, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. En deux mots, c'est des gens qui sont attachés dans une caverne à un mur, et en fait, il y a leurs ombres qui sont projetées sur la paroi. Et donc, Platon, il dit, il y a un monde, c'est le monde des idées, il est supérieur au monde sensible, au monde réel. Donc il lui dit, pour faire ces métaphores de ce monde réel qui serait les hommes projetés, le monde idéal qui serait les hommes, en fait la réalité. Donc moi je trouve qu'il y a une contradiction dans les faits parce que pour moi le monde idéal c'est la projection des hommes, c'est-à-dire une simplification du réel avec... Bon, là j'interprète, je suis pas un très grand spécialiste de Platon, j'y connais presque rien. Et donc en fait l'idée que j'avais c'était sur la représentation. L'idée de bonhomme, par exemple, d'un homme, quand on demande à quelqu'un de représenter un homme, il va vous dessiner un bonhomme bâton.
Oui.
Donc là, moi, j'ai fait une représentation de la même... j'ai utilisé une photo, j'ai fait trois représentations de la photo. J'ai couvert avec du blanc les parties que j'ai recouvert du pastel qui font bras d'homme bâton. Et donc, c'est pour montrer la différence entre l'idéal et la représentation. Donc là, le bonhomme fait réalistement, enfin... dans les limites de mes capacités techniques, c'est censé être le réel. Mais en fait, la représentation, c'est encore une idéalisation du réel. Donc, il y a une mise en abîme, il y a trois niveaux, quoi. Il y a le bonhomme bâton, la représentation qui est dessous, et encore l'image réelle, vous voyez ?
Oui.
Bon, c'était un peu l'idée. Et après, je l'ai fait en trois fois pour montrer qu'en plus, la représentation diffère à chaque fois. C'est pas les mêmes couleurs, c'est pas yeux, ils sont un peu différents. J'ai pas essayé d'être ultra réaliste sur les yeux et tout. Donc, ça donne même il y a des positions de trucs qui diffèrent. On peut jouer au jeu des différences avec.
Mais tout ça à expliquer, ça donne comme il y a un beau résultat esthétique sur ces trois tableaux. Moi, j'aime bien.
D'accord, ouais.
C'est intéressant, quoi.
C'est la première fois que je les expose ensemble. J'en ai déjà mis un tout seul, mais.
Voilà. Parce que je veux dire, il y a pas de surcharge. Enfin, en effet, c'est pas mal aussi. Hein. Donc j'ai bien aimé. Après, si on fait alors tout le tour, parce que il y en a plein de tableaux. Alors il y en a un autre qui il y a de l'écriture. Voilà, c'est ça. Celui qui est complètement.
C'est quoi? Attendez.
Au-dessus du bar, hein, on va
dire. C'est scène de soulographie en quête de la signification de l'Eucharistie. Donc en fait, bon, ça revient.
Il buvait du vin, c'est vrai.
Voilà, c'est ça. On revient à cette idée d'immerger le corps du Christ dans du vin. Donc pour moi, c'est une belle métaphore de la beuverie. Quoi.
Non, mais c'est ce que tu dis dans ton texte. Hein, je cherche ou d'autres. De s'oublier soi-même, hein, le mystique, etc. Mais la boisson ne peut-elle pas facilement nous faire perdre conscience de nous-mêmes sans pour autant cesser d'être?
Oui, voilà, c'est ça.
C'est
donc,
dommage, c'est bien dit, hein.
Là, je cesse d'être, parce qu'en fait, c'est une représentation de moi écroulée autour de bouteilles sur une table. Donc, il y a la disposition qui fait un peu scène. Après, il y a des dessins en bâton justement de la scène, donc inspiré de Da Vinci, mais en homme bâton. Il y a un calice et
d'ailleurs, c'est un tableau d'ailleurs en longueur pour la scène.
C'est 50 x 70 et centimètres. Et après, il y a de l'écriture, Donc, il y a tout un texte sur... C'est écrit d'un trait, donc il doit y avoir des fautes d'orthographe à tous les mots.
C'est écrit directement
sur la toile, sur le coup de l'aspiration. Justement, je me pose des questions sur ce que j'ai dit. Et puis, c'est plus...
C'est intéressant parce que l'écriture, est bien liée dans les tableaux quand même aussi. Parce que le texte que tu présentes pour l'expo, c'est important quand même que les gens le lisent, en discutent.
Ça donne une cohérence, même si je la cherche pas vraiment. Si vous voulez, c'est pour qu'on comprenne aussi que c'est pas non plus... un truc qui se prend trop au sérieux, même si j'évoque des thèmes.
Parce que sérieux, ce qui est sérieux, c'est le travail. Après, les gens c'est ça.
Enfin, moi, j'essaie d'être sérieux dans mon travail.
Voilà, c'est ça. Et donc, je vais peut-être résumer, parce qu'en effet, c'est une belle exposition. Il y a un contact, et on peut aller voir alors plein de tableaux de toi. J'y suis allée voir. On va sur Internet et on va à X Pinacoteca.
Oui.
Bon, bloc. Bon, mais moi, j'ai même pas tapé la suite.
X Pinacoteca. Voilà.
Puisque ton nom d'artiste, tu te présentes, c'est XP. Alors XP, écrit comme les lettres de Pax. C'est Pax.
C'est un chrisme, c'est un symbole christique. Et en fait, les lettres, c'est des lettres grecques à l'origine.
Ah, d'accord.
Donc c'est Kyro, donc les premières lettres de Christos en grec.
D'accord.
Et en fait, pour moi, c'est mes initiales. Donc j'avais vu ça en Tunisie dans des ruines gallo-romaines. Enfin, non pas gallo-romaines.
Non,
mais
on le voit. Ah oui, mais parce que romaine. Tu fréquentes pas les églises, parce que tu fréquentes les églises, c'est encore tout à fait utilisé.
Oui, non, c'est, oui, ceci, si,
je connais. Je parle la religion catholique.
Donc c'est depuis le début que j'ai pris ce symbole pour signer, donc ça me fait rire. En fait, ça ressemble un peu à la signature d'Albrecht Dürer. Donc qui croise ces deux lettres AD, mais donc j'ai un peu piqué dans tous les sens.
Donc vous voyez, on a un véritable artiste puisqu'il a une vraie signature d'artiste. Il y a des textes et surtout il y a une belle exposition.
Mais je signe pas les tableaux par contre.
Ah, tu signes pas les tableaux. Donc il y a une belle exposition à voir dans les locaux de la radio Canal Sud. Alors je vous rappelle que c'est au 40 rue Alfred Duméril. L'exposition, c'est tout le mois de février et les contacts. Je les ai dit, les contacts.
Pourquoi le choix ?
Hein ?
Pourquoi ce choix de morceau ?
Je vais finir avec le morceau personnel du Jésus qui à l'origine était composé par Dépêche. C'est la reprise
par
Dépêche Mode. Et là, c'est la reprise de Marilyn Manson parce que j'aime bien, là, je joue à l'adolescent attardé. Et en fait, moi, je trouve que Marilyn Manson est un grand artiste qui a une vision sur les choses et qui avait complètement compris que ça finirait avec Trump, par exemple. Et qui voulait foutre tout en l'air. Et bon, maintenant il est un peu mauvais parce que je crois qu'il boit trop. Je trouve qu'il a une esthétique très intéressante. Voilà.
D'accord. Donc tu voulais autrement rajouter d'autres choses
Par rapport à l'expo. Je fais un appel à modèles si des gens veulent poser pour moi. Il faut écouter l'émission pour savoir quelles sont mes thématiques. Et donc me contacter par mail à xpinacoteca@gmail.com. Et sinon je voulais remercier les gens qui m'ont aidé à monter l'expo. Donc Chacha, Roberto, Gégé, Ricardo, Quentin et qui y a d'autres que j'oublie pas et Léa. Et les autres que j'ai oubliés, si jamais. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Et on écoute alors ce morceau. Ça arrive. Ouais. Personal Jesus.
Reach out and touch faith.